Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, écho d'ailleurs, l'émission qui démonte sans agressivité les rouages de l'économie mondiale. La mondialisation, voilà un mot qui a envahi nos pensées et nos conversations. Voilà une réalité qui façonne nos vies quotidiennes, nos comportements, nos choix citoyens, nos cultures aux uns et aux autres, aux unes et aux autres. Des milliers de livres savants y sont consacrés tous les ans. Des milliers d'économistes partout dans le monde se penchent sur ce phénomène qu'est la mondialisation, en multiplient les explications, en décortiquent le fonctionnement et les implications et spéculent sur ce qui adviendra demain. Certains de ces économistes sont venus à ce micro, des gens sérieux qui publient des articles sérieux, mais parfois, certains d'entre eux font des embardés. À l'école d'économie de Paris, deux d'entre eux ont créé un journal qui s'appelle Déconométrix, de l'humour, et nous les avons déjà invités. Et voilà que deux autres économistes, chercheurs au CEPI, un éminent centre de recherche en économie internationale parisien, se sont associés à un dessinateur pour publier une bande dessinée. Oui, une BD. Son titre, La folle histoire de la mondialisation, BD au long cours de plus de 200 pages, et deux des trois auteurs de ce travail sont nos invités aujourd'hui. Bonjour Sébastien Jean.
Bonjour.
Sébastien Jean, vous êtes un habitué de cette émission maintenant. Vous êtes le directeur du CEPI, un centre de recherche en économie internationale à Paris. Vous êtes aussi directeur de recherche à l'INRAE, l'Institut National de Recherche Agronomique et Environnementale. Et avec vous, une autre économiste du CEPI, Isabelle Bin-Sidoun, a contribué à ce livre, mais elle n'est pas avec nous malheureusement. Par contre, l'illustrateur, le dessinateur est au téléphone. Bonjour Enzo.
Bonjour.
Enzo, vous êtes l'auteur de la partie graphique de cette bande dessinée et vous êtes aussi journaliste au mensuel Alternative Économique. Au cours de cette émission, pas de reportage, mais des illustrations sonores collectées par la Sonothèque de RFI. Mais qu'est-ce qui vous a pris, Sébastien Jean ? Vous nous habituez à des textes charpentés, ardus, parfois, à des explications très sérieuses. Mais une bande dessinée, c'est un autre univers.
Alors, qu'est-ce qui m'a pris ? L'intention pédagogique, l'intention de transmettre, de donner à comprendre, elle est ancienne. Je crois que vraiment, elle fait partie intégrante de ce que l'on fait, enfin en tout cas, la façon dont moi je conçois ma mission de chercheur. Maintenant, ce dont on s'aperçoit aussi au bout d'un moment, c'est que même quand on y met le meilleur de soi-même pour faire un texte qu'on estime suffisamment pédagogique et clair, au fond, il reste quand même assez aride pour beaucoup de gens. Or, je considère que la mondialisation, c'est l'affaire de tous parce que c'est vraiment partie intégrante, au fond, plutôt la superstructure du monde qui nous entoure. Et donc, c'est un problème essentiel à comprendre. Il faut que chacun puisse le comprendre. Mais pour que chacun puisse le comprendre, il faut l'expliquer, le raconter, le montrer d'une façon à la fois claire et attrayante, qui donne envie de s'y intéresser, qui combine tout ce qui est possible pour faire comprendre. Et c'est pour ça aussi que l'association du dessin, c'est une dimension supplémentaire pour permettre d'illustrer, de mieux faire comprendre, mieux faire passer ces arguments.
Enzo, est-ce que pour vous, ça a été un travail très différent, ce que vous avez l'habitude de faire en matière d'illustration ?
Pas tout à fait, mais effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Sébastien. En fait, l'économie, c'est quelque chose qui est beaucoup trop sérieux pour être laissé aux seules mains des économistes. Donc, il faut permettre à chacun de s'approprier ces enjeux-là. Et le dessin, la BD, peut y aider. Moi, donc, je suis dans la vraie vie, on va dire, journaliste économique. Donc, c'est des sujets que j'ai l'habitude, et c'est aussi mon métier de journaliste, ça consiste à vulgariser, à rendre tout ça compréhensible, donc c'est très très lié. Et effectivement, à Alternative Économique, on a lancé il y a quelques années une revue qui s'appelle Oblique, et qui mise déjà aussi beaucoup sur les enjeux graphiques, la bande dessinée, les infographies pour essayer de vulgariser. Donc d'une certaine manière, cette BD-là, j'ai utilisé aussi cette expérience et tout ce qu'on avait déjà expérimenté dans le cadre d'Alter Echo et d'Oblique.
Mais quand vous dites que vous êtes journaliste, est-ce que ça veut dire que vous êtes journaliste de texte ou est-ce que vous êtes journaliste graphique ?
Un journaliste de texte, oui.
Donc vous écrivez et vous dessinez. La partie graphique de cette bande dessinée est une vraie réussite, Enzo. Décrivez-nous quelle approche vous avez eue au plan des couleurs. C'est très orange, il y a beaucoup d'orange.
Les couleurs, c'est pas moi qui ai fait les couleurs. Hein. On a travaillé avec deux coloristes, Élise Follin et Sandrine Bonini, qui ont fait un travail formidable. Et c'est elles qui ont apporté cette touche un peu. On a choisi une palette assez réduite de bichromie, effectivement, dans les oranges et les bleus, qui fonctionnent très bien. Moi, je suis vraiment très très content du résultat. Après, effectivement, l'enjeu pour moi, l'approche a été de dire que l'économie, d'une manière générale, c'est quelque chose qui peut paraître très abstrait, qui peut faire peur à un certain nombre de lecteurs, de citoyens. Et l'enjeu, c'était de donner à voir ce que c'est que l'économie. L'économie, c'est pas simplement des concepts hors sol. C'est pas simplement un jargon de spécialistes. Non, c'est quelque chose qui nous concerne tous. C'est les objets du quotidien qui nous entourent. C'est des hommes, des femmes, c'est des travailleurs. C'est des paysages. C'est beaucoup de choses. L'économie peut se donner à voir. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est donner à voir. La mondialisation, dépasser les concepts et toucher un peu le concret.
Effectivement, Sébastien Jean, dans les premières planches, dans les premiers chapitres de cette bande dessinée, on voit des objets du quotidien. Un crayon noir, une machine à laver le linge, un jean. Ça, c'est votre apport à vous, Sébastien Jean, d'avoir voulu aller dans le concret comme ça ?
C'était issu de la volonté de permettre au lecteur de toucher du doigt le produit de la mondialisation pour essayer peut-être d'effacer une dimension un peu intimidante qu'elle peut avoir. Quand on parle de grands concepts, d'idées abstraites, de multilatéralisme, de libéralisation, de mécanismes économiques, ça peut avoir, je pense, un côté intimidant pour un certain nombre de gens. Et c'est une façon de montrer que c'est aussi simple, finalement, que de s'interroger sur la fabrication d'un crayon à papier.
Oui, alors expliquez-nous, ce crayon à papier dont on pense qu'il vient de la porte à côté, ben non, pas du tout.
Voilà, quand on essaie de... Une partie de l'interrogation initiale, c'était de se demander, bon, alors qu'est-ce qui est autour de nous ? Et demandez-vous ce qui est autour de vous est purement français, fabriqué en France de A à Z. Il y a très peu de choses, en fait. Et donc, en parlant, justement, regardez, le crayon à papier, c'est extrêmement simple. Hein, et du bois, il y en a partout en France. On peut supposer que si on choisit bien la marque, on va avoir un crayon à papier made in France. Eh bien, non. Parce que la mine, elle est essentiellement fabriquée à partir de graphite et on n'en produit plus en France depuis les années 30. Donc, ça n'est même pas possible que ça soit un crayon purement français. Et quand on défile comme ça l'ensemble des objets autour de nous, on s'aperçoit qu'il y en a un certain nombre, des objets très simples, du papier recyclé par exemple, on n'en fait plus en France. Un frigo, on n'en fabrique plus en France. Donc c'est une façon de faire toucher du doigt le degré d'interdépendance auquel on est arrivé. Hein, tout est entremêlé, c'est le monde dans lequel on vit. Et voilà, après c'est un bon point de départ pour se demander ensuite bon, comment on en est arrivé là. Et là c'est pour ça qu'après on donne une dimension historique, parce qu'on ne peut pas comprendre la photo d'aujourd'hui si on n'a pas le passé. Alors on parle d'épisodes justement pour essayer de faire comprendre, de faire passer cette idée qu'il y a une succession d'événements, de problèmes, de réponses apportées à ces problèmes, d'idées aussi, hein, et d'idéologies qui ont construit ce que l'on voit aujourd'hui.
Alors Sébastien Jean, pourquoi est-ce que l'histoire de la mondialisation est folle ? Je reprends le titre de la BD.
Elle est folle parce qu'elle est improbable par ses péripéties, par ses pieds de nez de l'histoire. Un exemple, on parle beaucoup aujourd'hui de containers. Les containers, ils ont été inventés par un entrepreneur américain, Malcolm McLean. Il a utilisé un porte-conteneur pour la première fois en 1956.
Alors je précise que dans la bande dessinée, je sais pas, 54, on voit des piles de containers sur des paquebots.
Absolument. Et maintenant, aujourd'hui, c'est omniprésent. Mais quand est-ce que ça s'est vraiment diffusé ? Parce qu'il y a un moment, il faut que ça fasse masse, si vous voulez, que ça soit utilisé à une grande échelle. Et l'événement qui a précipité ça, ça a été la guerre du Vietnam, parce que les États-Unis ont mené une guerre massive de l'autre côté du globe, et du coup, ça a créé des besoins de logistique absolument immenses. Et là, l'armée américaine, confrontée à ce défi, a cherché quelles pouvaient être les solutions, et ils ont été convaincus par cet entrepreneur, qui était en plus apparemment extrêmement dynamique et entreprenant, de la qualité de sa proposition. Et du coup, ils ont adopté son système et ça a donné un coup d'accélération extraordinaire. Voilà. Pareil, un autre pied-né, par exemple, que je trouve très intéressant, c'est ce qu'on voit aujourd'hui en termes de mobilité du capital qui traverse les frontières de façon, enfin, sans guerre d'obstacles. Et ce qu'on souligne, c'est notamment le rôle qu'ont joué les Français dans les décisions politiques.
Ne passons pas trop vite sur les pages, etc. J'ai plein de questions à vous poser à tous les deux. Par exemple, celle-là, Enzo. Il y a beaucoup de planches consacrées à des portraits dessinés. Comment vous décidez que tel ou tel personnage va mériter un portrait ? Est-ce que c'est vous, Enzo, le journaliste dessinateur qui prend la décision, ou est-ce que c'est une décision collective ? Comment on arbitre ça ?
La manière dont on a travaillé avec Sébastien et Isabelle, c'est vraiment ce qui est mis en scène. Donc c'était un choix dont on a discuté ensemble. C'était aussi une volonté un peu d'incarner, de créer un peu une proximité avec le lecteur. Mais en fait, tout simplement, ça correspondait à la manière dont on a travaillé. C'est-à-dire que ces scènes dans les bistrots où on nous voit débattre, discuter de la mondialisation, c'est vraiment de cette façon-là dont on a conçu le livre. On se voyait régulièrement tous les mois, au fur et à mesure de l'avancée des travaux, à discuter de ce qu'on allait faire, comment on allait mettre en scène les différents sujets et tout ça. Donc, c'est pas simplement de la mise en scène, en fait.
C'est du reportage.
C'est en tout cas, c'est du vécu. Et donc, effectivement, dans ces discussions-là qu'on a eues, moi, j'ai un petit peu poussé Sébastien et Isabelle à... Je les ai embêtés beaucoup pour essayer de trouver, à essayer d'incarner un peu le propos, de mettre en scène des gens, parce que dans une volonté, voilà, de pas être simplement dans les concepts et tout ça. Donc j'ai pas mal poussé. Après, le choix, ça c'est plutôt Sébastien et Isabelle qui eux, voilà, aller chercher un petit peu les auteurs les plus pertinents à illustrer. Donc voilà, mais c'était pour une volonté aussi de pas simplement dessiner des conteneurs, mais aussi des gens, des visages.
Alors l'un des premiers portraits de ce livre, Sébastien Jean, c'est celui de Stan Shi. Qui est-il ? Je dois dire qu'il n'est pas à son avantage. Hein. la plupart des portraits sont vraiment très à l'avantage, mais là, volontairement, j'ai l'impression qu'on l'a représenté comme quelqu'un de peu sympathique.
Ben, là où il joue un rôle important, donc il était à l'époque PDG d'un grand fabricant taïwanais d'électronique qui s'appelle Acer, c'est qu'il a été un des premiers à théoriser ce qu'on appelle en anglais la smile curve, la courbe du sourire. Et c'est quelque chose d'important pour comprendre ce qui s'est passé depuis 25 ans, c'est-à-dire cette idée qu'en fait, quand on regarde un processus de fabrication dans l'industrie, si on essaie de coter, disons, la valeur ajoutée qu'il y a dans chaque étape, eh bien, au fur et à mesure qu'on avance dans le processus, on va décrire un sourire. C'est-à-dire, au début, on va être à un niveau de valeur ajoutée élevé parce que c'est la conception, c'est l'innovation, c'est la structuration de l'ensemble. Ensuite vient au milieu de la phase de production la fabrication, et là il y a l'idée que finalement la fabrication aujourd'hui c'est plus là qui est vraiment l'apport d'une firme qui est parmi les leaders mondiaux. En fait, c'est quelque chose de finalement relativement standardisé, donc c'est le bas. Et puis ensuite on remonte sur la lèvre de l'autre côté, si on veut, c'est le bas du processus, et là il y a de nouveau beaucoup de valeur ajoutée, beaucoup d'occasions pour une entreprise de se distinguer et de faire du profit, parce que il y a le marketing, il y a le contact avec le consommateur. Et c'est très important, cette façon de concevoir l'évolution de la valeur ajoutée le long du cycle de production, parce que c'est ça qui a amené des raisonnements qui consistaient à dire la fabrication, c'est pas très important. À partir du moment où nous, on conçoit et puis à la fin, on vend, on peut délocaliser finalement la fabrication, ce que font aujourd'hui des entreprises sans usine comme Apple, hein, on connaît, assemblé en Chine mais conçu aux États-Unis. Et ce que disait Serge Turuc à l'époque, le PDG d'Alcatel, dès 2001, on va faire une entreprise sans usine. Bon, aujourd'hui, il a ni usine ni entreprise, hein, mais
oui, il a tout paumé.
Voilà. Mais la logique derrière, c'est celle-là. Et donc, il faut. Enfin, c'est important à comprendre parce que c'est aussi le résultat d'un processus où on a vu que dans la phase de fabrication, il y avait de moins en moins de profitabilité pour les entreprises. Voilà. Donc, c'est pas tombé du ciel non plus. Ça a été théorisé, si on veut, comme ça, et appliqué par beaucoup de monde ensuite.
Il y a plusieurs manières d'aborder ce livre, soit par la théorie, soit par les planches. On feuillette, on s'arrête. Et puis, il y en a une qui m'a arrêté. Enzo, c'est le portrait de messieurs Cobain et Chevalier. deux hommes politiques, français et britannique. Alors c'est vraiment très, très réussi. Enzo, pour représenter ces deux personnages, sur quoi est-ce qu'on se base? Parce que les photos, j'imagine qu'il n'y en a pas, donc des portraits, ou est-ce qu'on les imagine?
Ah bah dans ce cas précis, si j'ai fait des recherches un peu de photos d'archives, effectivement, ouais. Et si j'ai réussi à trouver, je me suis basé sur des photos historiques pour les redessiner. Et je voulais revenir aussi, si vous le permettez, juste un peu en arrière, parce que sur ce monsieur Stanchy et sa fameuse courbe du sourire, moi j'ai absolument rien contre ce monsieur, j'ai pas voulu spécialement le dévaloriser. Par contre, c'est vrai que j'ai pas pu m'empêcher de dessiner la courbe du sourire sur son visage à la place de ses propres lèvres, et là c'était plutôt le côté faire un clin d'œil, et c'est cette volonté-là, de manière un peu plus générale dans la BD, d'essayer de traiter. Il y a pas mal d'infographies, hein, pas mal de graphiques, courbes, mais à chaque fois avec l'envie de les traiter un peu différemment, d'utiliser le dessin pour réinterpréter les courbes et les histogrammes, et finalement aussi les dédramatiser, c'est-à-dire donner envie de se plonger dans des graphiques, quelque chose qui n'est pas forcément évident pour tout le monde, hein, de lire une courbe. Et là, le dessin peut être un médium qui amène les gens vers les chiffres et les aide à mieux les comprendre, et donc des fois en jouant avec un petit peu d'ironie. Bon, ben voilà, c'est ce que...
Mais on peut se reposer aussi en regardant, contemplant cette œuvre d'art qu'est la planche du traité Cobben-Chevalier, qui représente ces deux hommes. Et je vous complimente d'ailleurs, Enzo, parce que ce travail graphique tout au long du livre est une vraie réussite. Sébastien Jean, qui sont ces deux individus?
Alors, c'est les ministres du commerce respectifs de la France et des Royaumes-Unis qui ont négocié le traité de libre-échange signé entre ces deux pays en 1860. Deux personnages importants parce que, alors, ce traité, il est assez symbolique du libre-échangisme au 19e siècle, en tant qu'idée. Hein, et on essaie de souligner
C'est la première mondialisation.
Oui, c'est la première mondialisation. Et c'est l'une des occasions où on essaie de souligner l'importance des idées dans ces évolutions. Alors, il faut surtout pas croire, ça serait complètement faux, que le 19e siècle est un siècle de libre-échange. C'est tout le contraire, mais dans beaucoup de pays, c'est le contraire. Mais s'il y a bien un pays où l'idée du libre-échange a fait un parcours intellectuel assez triomphal, pour le dire très vite, c'est le Royaume-Uni. Et Richard Cobden en a été un des artisans, parce qu'il a été l'un des artisans de la campagne pour la suppression de ces lois qui protégeaient les céréales, qui mettaient des droits de douane très élevés sur les céréales. Et il y avait un enjeu derrière très important pour le Royaume-Uni. Voilà, donc c'est un homme important dans cette symbolique. Et ce traité de libre-échange, ça a été quand même un peu un symbole de la baisse des protections commerciales en Europe, donc pour le Royaume-Uni, pour la France de Napoléon III également. Donc c'est une étape importante. C'est probablement d'ailleurs le moment, ça a marqué l'acmé de cette idée du libre-échangisme, parce qu'après il y a eu l'apogée du libre-échangisme en Europe, parce qu'après, à partir des années 70, il y a eu un peu une légère
1870. Oui. Remplaçons-nous dans le temps, hein, Sébastien Jean. Enzo, dites-moi quand même deux mots sur ce travail de portraitisation que vous faites. Il y a une foule considérable de personnages dans ce livre. Je le feuillette, je vois Paul Krugman, prix Nobel d'économie américain. Il y a beaucoup de gens.
Oui, alors, moi, c'est vrai, c'était aussi pour moi, l'intérêt de faire cette bande dessinée, c'était de me lancer aussi un petit peu des défis graphiques d'une certaine manière, et j'ai cherché des modes d'écriture dessinée, hein, je parle de d'écriture dessinée un peu différents, et donc d'essayer de trouver des styles, et c'est vrai que oui, c'est quelque chose que j'aime bien, donc et le portrait, c'est pas quelque chose qui est forcément facile en dessin, hein, d'arriver à faire des portraits ressemblants, donc c'est aussi une manière pour moi même une forme d'apprentissage. J'ai aussi utilisé cette BD pour essayer de progresser en dessin, parce que c'est quelque chose que je dessine depuis longtemps et que j'aime bien faire, et donc voilà, c'était essayer d'aller toujours un peu plus loin et d'explorer certaines formes d'écriture graphique différentes.
C'était Codici et Codailleurs sur RFI. Nous parlons d'une bande dessinée, La folle histoire de la mondialisation, avec deux des auteurs, le dessinateur, l'auteur de la partie graphique du livre Enzo, et Sébastien Jean, l'un des auteurs de ces bulles. Vous parliez de la Grande-Bretagne, de son ministre du Commerce. La Grande-Bretagne, elle a toujours été au cœur des mondialisations. Ainsi, en avril 1979, la Grande-Bretagne se dote d'un nouveau Premier ministre, Margaret Thatcher, la dame de fer, bien connue. Écoutez ce dossier retrouvé dans les archives sonores de RFI et que nous avions diffusé, nous RFI, à cette époque sur nos antennes.
La voilà, à 53 ans, devenue le Premier ministre de sa très gracieuse majesté. Claude Mazot, correspondant à Londres, nous retrace cette ascension.
Il est loin le temps où Maggie, la dame de fer, n'était qu'une petite fille dans l'épicerie paternelle. Loin le temps où, pour faire ses études à Oxford, elle devait demander une bourse. Désormais, les chefs d'État du monde occidental auront un nouvel interlocuteur au tailleur strict, au collier de perles et à la coiffure bien sage.
La Grande-Bretagne de 1979 connaît un marasme économique et social sans précédent. 2 millions de chômeurs, production et exportation industrielle en baisse, hausse des prix de 12% par an. C'est la faillite de la politique menée par les travaillistes, même sur le front social. Grève syndicale et tensions raciales dans les quartiers de forte population immigrée. Margaret Thatcher se veut une infirmière de choc. Elle décide un changement radical de politique, le libéralisme contre l'étatisme. Edward Mortimer, journaliste au Times.
Elle dit, je suis contre le socialisme, je suis contre le collectivisme, je suis pour la liberté d'entreprendre. Et elle est populaire en général chez les milieux d'affaires et certainement les thèmes qu'elle évoque, la grandeur aussi de la Grande-Bretagne, le réarmement, le péril soviétique, tout cela c'est des thèmes traditionnels de la droite. Mais je pense qu'elle est consciente que pas tout ce qu'elle va faire ne va être populaire. Et je pense qu'elle a suivi avec beaucoup d'intérêt l'expérience Barre en France.
À Paris, justement, on s'inquiète. Le président Valéry Giscard d'Estaing, qui plus tard dira de Madame Thatcher qu'elle est le seul homme politique de son époque, s'interroge sur ses intentions européennes.
On la voit dans la bande dessinée, Margaret Thatcher, Sébastien Jean.
Oui, parce que on la voit, j'allais dire évidemment, parce que justement les idées jouent un rôle important dans la façon dont notre monde est organisé et elle y a joué un rôle éminent et évident. Main dans la main, j'allais dire, un peu au niveau international avec Ronald Reagan. Pourquoi ? Parce que c'est bien décrit d'ailleurs dans votre archive. On arrive à un moment où, un moment de crise, hein, un moment d'interrogation vraiment sur le modèle économique. C'est le deuxième choc pétrolier, c'est un ralentissement de la croissance extrêmement violent, extrêmement inattendu par rapport à la période un peu glorieuse qu'il y a eu avant. Et du coup, tout le monde s'interroge sur la bonne direction à prendre. Mais là, il n'y a pas d'évidence. Hein. Et c'est le moment où, justement, les choix, la capacité de conviction, d'emporter l'adhésion, les idéologies dictent le tournant. Et voilà. Et elle fait prendre un tournant à son pays, le Royaume-Uni, un tournant de privatisation, de libéralisation forte de l'économie, de libéralisme assumé, et un tournant qui aura une force d'entraînement internationale très forte, et donc qui va vraiment donner le la au niveau international, le la de la libéralisation financière et de la financiarisation des économies. Donc c'est vraiment un des moteurs de l'évolution des décennies qui vont suivre.
Alors, vous avez cité Thatcher, vous avez cité Reagan, et alors, dans ce livre, moi j'ai appris que la France, qu'on dit toujours rebelle à la mondialisation, à la libéralisation, à l'évolution de l'économie mondiale, avait joué finalement un rôle important dans ce processus.
Oui, c'est quelque chose justement d'assez paradoxal qu'il faut bien comprendre, disons. C'est-à-dire que après la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas de volonté de libéraliser les mouvements de capitaux internationaux, pas de façon générale. Et puis progressivement, cette volonté, elle s'est développée parmi beaucoup d'acteurs. Les Allemands, par exemple, étaient très pour. Et la France, notamment, résistait à cette idée de libéralisation des mouvements de capitaux. Il faut se rappeler que sous le gouvernement Maurois, en France, il y avait des contrôles de capitaux qui étaient extrêmement stricts.
Donc au début des années 80.
Voilà, quand on voulait voyager à l'étranger, on était limité drastiquement sur le montant de francs qu'on pouvait prendre avec soi, ou de devises d'ailleurs. Donc il y avait des mesures extrêmement fortes. Et puis le constat qu'ont fait les membres du gouvernement, c'est finalement que par ces contrôles, ils arrivaient très bien, assez bien en tout cas, à contrôler ce que faisaient les petites gens, entre guillemets, hein, les citoyens moyens. Mais en revanche, ils n'arrivaient pas à empêcher un capitaliste, enfin disons quelqu'un qui est fortuné, qui est responsable d'entreprise ou d'investissement, à faire ce qu'il voulait, parce qu'il a des correspondants à l'étranger, parce qu'il a mille manières d'éviter leur contrôle. Et donc ils sont arrivés à la conclusion que leur politique était finalement inégalitaire, elle était contre-productive d'une certaine façon, parce qu'elle imposait des contraintes aux citoyens moyens sans arriver à vraiment limiter les grosses forces du capitalisme. Et là, face à ce constat, l'approche qui pour le coup est assez typique des Français, notamment des socialistes français, ça a été de dire, puisque nous ne pouvons pas organiser le phénomène, feignons de l'organiser, selon la citation connue, mais en tout cas, organisons-le, essayons de l'organiser pour le maîtriser. Et donc, ils ont donné le là, et ça a été particulièrement important, d'une part parce qu'ils étaient la dernière grande force de résistance à cette mobilité internationale du capital, et ensuite parce qu'ils ont voulu lui donner ce côté systémique. Résultat, libéralisation des mouvements de capitaux complète en Europe. En France, elle a été complétée au 1er janvier 1990. Et puis même volonté de pousser la libre circulation des capitaux au niveau international, notamment dans les années 90, notamment au FMI, où là, pour le coup, c'était un autre Français, Michel Candessus, qui était directeur général du FMI.
Enzo, je m'imagine, lors d'une de vos réunions mensuelles, vous venez d'écouter Sébastien Jean expliquer le rôle de la France dans cette libéralisation financière. Et je me dis, mais comment est-ce qu'on peut l'illustrer et le rendre concret et vivant, comme vous le faites ?
Ben là, c'est parfait parce que on a une histoire qui est assez surprenante. On a tous l'impression que la mondialisation, c'est une construction anglo-saxonne. Et là, on prend le contre-pied de ça. Donc, déjà, on surprend un peu le lecteur.
C'est clair.
On rapproche aussi le propos de nous. C'est-à-dire qu'en fait, les Français ont joué un rôle non négligeable dans la construction de la mondialisation financière. Donc finalement, il y a la loi de proximité, hein, bien connue des journalistes. Il y a aussi l'intérêt. Ben voilà, on est proche de chez nous. On parle des Français. Après, à mettre en dessin, ben là, c'est l'histoire. Donc finalement, l'histoire, il y a des personnages historiques. On peut mettre en scène Pierre Mauroy, Jacques Delors à la Commission européenne. Je me suis amusé à redessiner des couvertures à la fameuse une de Libération, Allons enfants de la rigueur. Ouais, l'histoire, c'est quelque chose à la fois d'assez narratif et d'assez visuel. Donc c'était pas forcément les parties les plus difficiles à mettre en scène, c'était même assez rigolo. La principale difficulté, c'est que un acteur assez important, hein, de cette période-là, c'était un haut fonctionnaire français socialiste, hein, je crois, Sébastien, tu me corriges si je me trompe, Henri Chabransky. Et alors là, impossible de trouver une seule image de ce monsieur sur Internet. Il contrôlait son image de manière très très forte. Et donc là, j'étais obligé de dessiner une silhouette, hein, parce que je n'avais pas inventé ses traits. Donc ça, c'est un côté un peu surréaliste. C'est le haut fonctionnaire qui a joué un rôle assez important dans la libération des mouvements de capitaux, et finalement on n'est même pas capable de lui donner un visage. Donc on a décidé d'assumer ça, de le montrer en silhouette. Voilà.
Il y a un autre acteur qui intervient dans cette mondialisation, c'est la Chine. La Chine entre en octobre 2000 à l'Organisation mondiale du commerce. Écoutez ce que disait à cette occasion le premier ministre chinois de l'époque, Zhu Rongji.
Après son entrée à l'OMC, la Chine honorera scrupuleusement tous ses engagements, à savoir une plus grande ouverture du marché intérieur, une ouverture par étapes du secteur des services, tels que les banques, les assurances, les télécommunications, le commerce extérieur et intérieur, le tourisme, ainsi que l'octroi progressif du traitement national aux investisseurs étrangers. Des investisseurs étrangers que nous allons nous efforcer d'attirer, en encourageant notamment les multinationales à investir dans les secteurs de technologie de pointe, et à participer aux réformes des entreprises d'État et au renforcement des infrastructures. La Chine s'est aussi engagée à améliorer l'environnement des investissements et des affaires en faveur des entrepreneurs étrangers et à protéger légalement leurs droits et intérêts légitimes. Tout cela va ouvrir de nouvelles voies en créant de meilleures opportunités pour la coopération économique et commerciale entre la Chine et l'Union européenne.
Alors, l'entrée de la Chine à l'OMC se fait après d'intenses négociations avec les Américains et les Européens. À l'époque, le commissaire chargé des négociations s'appelle Pascal Lamy. Il est représenté abondamment dans cette bande dessinée. Et voilà ce qu'il disait à Jean-Marie Coate, journaliste à RFI, sur les concessions arrachées à Pékin par Bruxelles.
Là, nous avons les tarifs douaniers chinois aujourd'hui sont quelque part entre 20, 40, voire 60%. Nous avons obtenu pour l'essentiel des exportations européennes, notamment dans le domaine agricole, des niveaux tarifaires de l'ordre de 9%, ce qui va évidemment fortement faciliter les exportations européennes dans ce domaine. Mais je précise que nous avons obtenu ces réductions tarifaires et en plus, en matière de télécommunications, pour les industries européennes, un accès supplémentaire au marché chinois. Pour les assureurs européens, une amélioration de leur position compétitive vis-à-vis de leurs concurrents américains. Dans l'industrie automobile, des mesures de simplification qui sont très importantes compte tenu de l'importance de l'industrie européenne sur le marché chinois. Et en matière de distribution, dont chacun sait que c'est un point fort pour les Européens, quel qu'il soit, pour les Français, bien entendu, mais je ne suis pas là seulement pour défendre les intérêts français, mais aussi l'ensemble des intérêts européens, des mesures qui vont leur permettre de pénétrer davantage le marché chinois. C'est plus d'exports et donc plus d'emplois pour l'Europe.
Donc c'était le commissaire européen au micro de Jean-Marie Coat. Sébastien Jean, ça vous replonge dans votre bande dessinée, ces propos ?
C'est effectivement une étape vraiment importante. L'entrée de la Chine à l'OMC, donc, qui est devenue effective en décembre 2001. D'une certaine façon, presque aussi importante, voire plus importante que la création de l'OMC elle-même. Alors, c'est arrivé après 15 ans. Hein, ils avaient manifesté, ils avaient posé leur candidature 15 ans avant. Ça a été des négociations acharnées dans lesquelles les responsables chinois, là on parle du Premier ministre Zhu Rongji, il a vraiment mis en péril, enfin il a risqué sa carrière en fait, hein, là-dessus. Ça a été extrêmement tendu au sein de l'État chinois. Et les
pourquoi,
concessions...
Pourquoi ?
Parce que c'était tout à fait contraire à l'esprit de régime communiste de s'engager dans les réformes qu'on leur a demandé de faire pour adhérer à l'OMC, c'est-à-dire des réformes de grande ampleur des entreprises d'État en Chine, la création de tribunaux pour traiter des conflits
commerciaux
notamment, en construisant, ça les a obligés à des réformes législatives de très grande ampleur. Donc c'était vraiment un choc très important et qui était très contesté au sein du Parti communiste. Est-ce qu'on aurait pu, enfin par exemple, on est tenté souvent de réécrire l'histoire après coup, de dire on n'a pas assez.
Oui, parce que quand on écoute Pascal Lamy, on a l'impression que c'est un peu naïf ce qu'il dit là.
Oui, mais alors je pense
vu ce qui s'est passé après.
Absolument, mais je pense qu'il faut bien comprendre de quelle façon. C'est-à-dire, pour moi, on n'aurait pas pu obtenir plus de concessions de la Chine. Il y a eu une pression folle dans ces négociations vis-à-vis de la Chine et on n'aurait pas pu obtenir plus de concessions. En revanche, là où ça a été vraiment, je pense, naïf après coup, c'est que toute cette discussion s'est faite dans une perspective où l'on considérait que la Chine était engagée dans un processus de convergence vers la démocratie libérale de marché à l'occidentale. Or, ça s'est avéré complètement faux. Et donc, ça change complètement la perspective. Donc, dans cette perspective-là, je ne crois pas qu'on pouvait obtenir beaucoup plus de la Chine. Mais, en revanche, la perspective était faussée. Ensuite, je m'empresse de dire, l'autre aspect, c'est qu'il faut pas aller trop vite en disant, ah, c'était une erreur, regardez ce qui s'est passé ensuite. Parce que, après, il faut se demander, qu'est-ce qui se serait passé si on avait refusé l'entrée de la Chine à l'OMC? Est-ce que vraiment, ça aurait été plus facile? Ça, c'est vraiment quelque chose, enfin, c'est une question qu'il est extrêmement difficile, à laquelle il est extrêmement difficile de répondre. Voilà. Donc, c'est une étape évidemment importante parce qu'après, on a une période de 5 ans pendant laquelle les exportations chinoises augmentent de 30% par an. Parce que on a une étape vraiment importante dans la réforme interne de la Chine et dans son explosion sur la scène internationale qu'on a vue.
Enzo, Sébastien Jean, vous l'entendez et puis vous le connaissez bien, vous avez travaillé avec lui, il parle long. C'est difficile pour lui de résumer sa pensée, parce qu'il a une pensée complexe, intelligente, de la résumer en 3 mots. Ses phrases aussi sont longues. Ses textes sont longs. Est-ce que pour le dessinateur que vous êtes, c'est une complexité, une difficulté à affronter dans ce travail d'illustration ?
Non, pas vraiment, parce que quand même Sébastien a une pensée complexe, mais très claire. Et puis toutes ces discussions, en fait... On les a eus au bar, on a eu tous ces débats.
Au bar, vous dites ?
Oui, ben on était au café, on se retrouvait au café avec Isabelle et puis on discutait un peu de tout ce qu'on allait mettre dans la BD. D'ailleurs, pour l'anecdote,
donc c'était avant les confinements.
C'était avant les confinements et quand on a commencé à travailler sur la bande dessinée, tout à fait. Et le bar dans la bande dessinée est situé d'ailleurs, c'est pour le clin d'œil, rue de la Chine à Paris dans le 20e. Et d'une autre manière, moi j'ai aussi du fait de mon métier de journaliste alternatif économique, je suis assez habitué aussi à discuter avec des économistes, à relire des textes d'économistes, à les éditer et tout ça.
À les sabrer.
À les couper aussi, oui, ça fait partie du boulot. Et donc, non, mais on a fait beaucoup d'allers-retours, même sur le texte, pour essayer de voir un petit peu comment mettre tout ça en scène. Et ça s'est très très bien passé.
Jean, je crois que vous revendiquez d'ailleurs. C'est pas parce que c'est une bande dessinée qu'il faut aller vers le simplisme. Absolument. C'est bien ce que j'ai compris.
Absolument. Je crois que c'est vraiment un objectif qu'on partageait tous. Hein. C'est vraiment un travail collectif. Enzo l'a bien dit avec Isabelle Bensinoun, avec notre éditeur. Hélène de Virieux aussi. Vraiment, il y a eu des discussions autour de tout ça. Donc, sans concession, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on essaie de le rendre attractif, c'est pas parce que, ou c'est précisément parce qu'on pense que c'est important au-delà des économistes, qu'il faut être d'autant plus rigoureux sur la façon dont on traite le sujet. C'est pour ça que tous les chiffres qui sont donnés dans la bande dessinée sont sourcés à la fin. Il y a quelques pages pour donner exactement les sources. On peut retrouver tout ce qui est dit. Parce qu'on veut, on veut donner des clés. On veut donner, mais des clés qui soient des clés de sûreté, d'une certaine façon, pour comprendre de la bonne façon ce qui se passe, pour bien établir que des choses nettes, transparentes. Voilà. Ensuite, si on veut que les choses soient nuancées, effectivement, on peut avoir tendance à faire des phrases, donc, enfin, des explications peut-être un peu élaborées. Effectivement, moi, ça me plaît, et je crois que ma collègue Isabelle Bensidoun aussi, par écrit, ça me convient assez bien. Après, quand on fait un travail comme celui-là, on s'aperçoit qu'il faut adapter à un moment son style à l'objet et à l'idée qu'on s'en fait. Et finalement, les bulles s'accommodent, demandent d'être assez direct, un peu plus punchy, un peu plus dynamique dans la façon dont on écrit. Ouais. Je ne sais pas si on a réussi complètement, on a forcé un peu notre nature, en tout cas, au fur et à mesure, on a réalisé ça. C'est-à-dire, quand on met une phrase longue, quand elle se retrouve éclatée dans quatre bulles, on s'aperçoit que ça devient un peu lourd.
Alors, il n'y a pas que des économistes morts qui sont cités, évoqués, dessinés dans cette bande dessinée. J'en ai relevé deux, Anton Brander et Florence Pisani, qui sont, que j'ai eus au téléphone ces jours-ci. Est-ce que pour les mettre dans cette BD, par exemple, c'est pour vous une sorte de... leur décerner une sorte de prix Nobel de consécration. Est-ce que vous pensez qu'être dans cette BD, ça fait des économistes illustres et importants ? Illustrés, oui. Illustres, peut-être.
Non, ça serait nous donner beaucoup trop d'importance. C'est simplement la reconnaissance de notre part de leur apport, au fond. Dans notre conception, voilà, mais nous on n'est pas un comité Nobel, donc ça n'est que notre la façon dont on voit les choses. Et en même temps, c'est vrai que sur les différents sujets, comme on a envie d'incarner ce qu'on est en train de dire, de souligner le poids des idées, des contributions dans le débat, eh bien, on l'associe assez spontanément à certaines personnes. C'est finalement comme ça que ça vient. Et des personnes, en l'occurrence, comme Anton Brander, Florence Pisani, ont eu des écrits qui étaient assez limpides, très éclairant sur la dynamique de la crise des subprimes et la façon dont finalement ce qui a éclaté sur le marché immobilier américain, quand on prend du recul, s'explique par un grand jeu de vases communicants entre finalement l'épargne des ménages chinois qui descend, qui va dans le système financier chinois, qui, étant donné la façon, l'équilibre macroéconomique de la Chine doit s'exporter, arrive aux États-Unis dans les banques qui elles-mêmes le transforment de différentes manières et vont finir par le prêter aux consommateurs et leur prêter, j'allais dire, même quand ils ont pas les moyens d'emprunter, d'où les subprimes, d'où ces prix un peu pourris, entre guillemets, et d'où la préparation de la base de ce qui a été ensuite la crise financière.
Voilà, donc, il faut l'épargne des consommateurs chinois, des épargnants chinois, a nourri la crise américaine de 2008.
Indirectement, effectivement, c'est ce qu'on explique, si on prend du recul, si on regarde l'ensemble, effectivement, il y a un vase communicant qui peut s'établir entre les deux.
Alors, la finance, c'est quelque chose qui irrigue tout le livre, la première mondialisation, la deuxième mondialisation, la situation actuelle. Et il y a un homme qui avait fait de la finance son ennemi, C'est François Hollande, qui était candidat à la présidence de la République. En janvier 2012, il a prononcé une petite phrase qui a fait beaucoup de bruit et qui résonne encore. C'était un discours, le discours fondateur de sa campagne électorale en 2012, en janvier au Bourget. On l'écoute.
Je vais vous confier mon secret. J'aime les gens quand d'autres sont fascinés par l'argent. Mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
François Hollande, qui fait une brève apparition dans le livre, c'est vraiment pas un personnage majeur.
Non. Hein ? Oui, oui, c'est pas parce qu'il n'a pas été structurant, disons, dans les équilibres internationaux, je crois, ce qui lui a parfois été reproché d'ailleurs. En effet, il est relativement mineur à l'échelle de ce livre. Maintenant, c'est assez significatif cet épisode sur la finance, significatif d'une période de réaction à ce que tout d'un coup, on a perçu comme vraiment des excès. Et on a parlé de Margaret Thatcher tout à l'heure, il y a une période qui s'est enclenchée à ce moment-là. Et François Hollande, il n'en est pas le moteur, mais il est une des illustrations, et probablement pas la plus cohérente d'ailleurs dans le temps, de ce phénomène de réaction. C'est-à-dire que tout d'un coup, on s'aperçoit de l'ampleur des excès, des dérives d'un capitalisme financiarisé, d'une mondialisation financiarisée qui a abouti à un système qui est bourré de défauts vraiment extrêmement problématiques. Ce qui a nourri une réaction populiste souvent, mais une réaction forte contre la mondialisation, dont les symboles, en fait, sont surtout le vote du Brexit, Donald Trump, l'expansion du populisme sous différentes formes, qu'on passe à Viktor Orban en Hongrie, qu'on pense au parti PiS en Pologne, à Erdogan en Turquie, Poutine en Russie, etc.
Alors, il y a un homme qui est peut-être qu'on aurait pu évoquer plus tôt dans notre émission, qui intervient au milieu du livre. Et lui, il n'a pas une planche, il a une double page. C'est Milton Friedman. L'économiste...
Oui, à tout seigneur, tout honneur, j'allais dire, parce que dans justement ces débats d'idées internationaux qui ont façonné l'évolution du capitalisme, il a joué vraiment un rôle crucial. On a parlé de Margaret Thatcher tout à l'heure, mais son élection doit beaucoup quand même à une évolution du débat des idées qui a été marquée par la percée des idées de Milton Friedman, de cette vision monétariste de l'économie, de cette vision très libérale aussi, qui voyait dans l'État le problème plutôt que la solution, et qui voyait une issue à cette crise des années 70 dans une dérégulation et une libéralisation de l'économie, d'où une bonne partie des événements qui ont eu lieu ensuite. Donc lui a été vraiment le pape de cette école de pensée, et à ce titre il a été extrêmement influent. Alors on connaît par ailleurs des épisodes en plus assez marquants politiquement, son influence par exemple sur le régime de Pinochet au Chili.
Voilà, et sur la dictature militaire, voilà. D'ailleurs, au verso de la double page consacrée à Milton Friedman, il y a Pinochet. Et puis, juste en dessous, alors, par contre, il y a Michel Aglietta.
Oui.
Alors, c'est pas la même. Michel Aglietta, c'est un de vos collègues
Absolument.
Du CEPI. Donc, on peut pas dire que ça soit un économiste libéral.
Non, c'est au contraire le père de l'école de la régulation, qui a une lecture de ces événements, de ces transformations du capitalisme, qui est tout à fait différente, et qui a interprété surtout cette crise des années 70 comme une crise du Fordisme, une crise d'un régime de croissance qui s'était établi sur une logique d'évolution, d'augmentation de la productivité, mais aussi de répartition harmonieuse des fruits de la croissance qui se nourrissait elle-même. Et puis, tout ça est arrivé, a été déréglé à l'époque par les chocs pétroliers et la poussée de l'inflation. Et justement, lui considère que il y a eu vraiment une rupture à ce moment-là, marquée en particulier par ce qu'on appelle le choc Volcker. Volcker, c'était le président de la Réserve fédérale.
De la Banque centrale américaine.
La Banque centrale américaine, qui en 1979 a décidé, pour casser l'inflation, de monter très fortement les taux d'intérêt. Et Michel Aguilera d'État explique comment ce choc a fait basculer d'un régime, d'une régulation du régime de croissance capitaliste qui était typique du fordisme, à un équilibre nouveau qui a été celui du capitalisme financiarisé, où la valeur actionnariale devient la boussole, l'étoile polaire un peu pour diriger le capitalisme.
Il n'y a pas d'étoile polaire dans le livre, Enzo, je ne me souviens pas l'avoir vu.
Non, j'ai préféré dessiner des requins.
Des requins, ouais. Oui, il y en a quelques-uns. Oui. Ouais. Mais ce que je voudrais dire, on approche de la fin de l'émission, c'est un livre parfois complexe, hein, il ne faut pas se le cacher, mais qui est très abordable, très facile à lire, très, on peut se plonger, revenir en avant, en arrière. Alors, ce qui me frappe quand même, c'est la focale française. Parce que, donc, on sent bien que vous vous adressez à un lectorat français.
Oui, parce qu'on voulait justement rendre tangible tout ça, c'est-à-dire s'éloigner de l'image de quelque chose d'abstrait, de difficile à cerner. Et on voulait montrer que ça nous concerne tous. D'ailleurs, l'idée initiale dont nous avait parlé Hélène de Virieux, l'éditrice, c'était la mondialisation autour de nous, vue par notre environnement immédiat. Hein, et on s'était dit, d'ailleurs, aussi un titre intermédiaire, ça avait été la mondialisation vue d'ici. Mais voilà.
Mais il n'y a pas vue d'ailleurs.
Non, parce que c'était aussi peut-être aussi une façon d'essayer de renforcer, d'appuyer l'idée auprès de chacun que c'est l'affaire de tous, que ça nous concerne directement. C'est pas seulement une question d'idée sur la façon d'organiser le monde, c'est indirectement une façon de structurer notre vie quotidienne. Et on voit bien d'ailleurs la place que ça prend dans le débat politique français. D'où l'importance d'essayer d'avoir une grille de lecture qui soit un peu rigoureuse, un peu organisée, et de ne pas tomber dans le simplisme. Hein. On dit un peu au début, c'est un mot valise qu'on s'envoie à la figure. Il y a beaucoup de simplistes qui font pas avancer le débat. Parce que ça ne sert à rien de se dire je suis pour ou contre la mondialisation. Ça ne veut rien dire en soi. Il faut décortiquer et il faut essayer d'être plus précis, plus argumenté dans la vision qu'on en a.
Malgré tout, le bilan qu'on en tire quand on referme le livre, c'est pas très favorable à cette mondialisation.
Oui, c'est-à-dire que, est-ce qu'on vit dans le meilleur des mondes? Évidemment pas. Ça ne veut pas dire qu'on vive dans le pire non plus, hein, mais il y a énormément de défauts au monde d'aujourd'hui et des côtés révoltants, disons. Il faut pas. Et d'abord, il faut reconnaître ça. Si on veut porter un regard lucide sur la mondialisation. Ensuite, ça donne pas la clé directement de ce qu'il faut faire. Hein, c'est-à-dire qu'il suffit pas de dire ah ben non. D'une part, si on démondialisait complètement, est-ce que ça serait mieux? Je suis pas convaincu du tout. En revanche, ce qu'on essaie vraiment de souligner, c'est que une autre mondialisation est possible, hein. Un autre principe d'organisation de ces interdépendances. Donc les interdépendances, elles sont là, on partage la même terre, on partage le même climat, on partage aussi, par exemple, aujourd'hui le même vaccin, finalement, au niveau international, donc ça ne va pas s'arrêter demain, les idées se diffusent dans le monde entier. Mais on peut s'organiser différemment dans ces interdépendances.
Enzo, je vais vous laisser écrire le mot fin. Est-ce qu'il y a un deuxième livre sur, justement, ce que pourrait être une mondialisation idéale qui se prépare?
Je sais pas, mais pour rebondir sur le côté un peu français, effectivement, en termes de bande dessinée en économie, il y avait eu le précédent Economics, qui est une très bonne BD pédagogique sur l'économie, mais qui était effectivement une BD américaine et qui développait d'une certaine manière le point de vue américain. Et c'est vrai qu'il manquait, une BD économique un peu ambitieuse qui parte de notre point de vue à nous en France. Et c'est aussi un peu en tant que dessinateur. Ce qu'on a essayé de faire, quoi.
Merci Enzo, merci Sébastien Jean. Je rappelle le titre de votre livre, La folle histoire de la mondialisation. 250 pages de dessins magnifiques et d'explications lumineuses. Vous pouvez nous réécouter, nous podcaster sur l'application Pure Radio de RFI sur votre smartphone. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Sur RFI.
Tout à l'heure,